Donc, la notion de tolérance connaît, à mon avis, donc depuis quelques décennies, une utilisation inflationnaire et elle est quasiment devenue une évidence. Donc, une évidence pour thématiser les rapports entre les sujets singuliers et collectifs, issus des cultures différentes et véhiculant des idéologies et visions différentes. Convoquée dans toutes ces variations et dans des contextes vraiment divers, elle devient constitutive des agissements ayant pour but l'évitement ou le règlement des différends et de ce fait favorise l'acceptation de la différence. Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'on perçoit l'utilisation donc, de la notion de tolérance. Considérée pendant des siècles sur le plan religieux comme vertu de faiblesse, elle est le socle du mythe fondateur des sociétés démocratiques modernes. Mais qu'est-ce que la tolérance ? Quand peut-on désigner une personne ou une attitude de tolérance ? Existe-t-il par exemple des comportements qui exigent le recours à l'intolérance ? L'utilisation de plus en plus prononcée du terme tolérance, donc surtout dans le discours public, m'amène à postuler que nous perdons en partie en vue ce qu'est la véritable nature de la tolérance. Partant de ce postulat, que la notion de tolérance est sous-jacente aux agissements de bien de personnages aussi donc dans la fiction francophone d'Afrique, et au regard de la complexité qu'elle présente pour être saisie, cette communication s'appuiera essentiellement sur donc, ces questionnements que je viens d'énumérer un peu plus haut, pour faire l'étude de la proximité, voire de l'ambiguïté que la tolérance entretient avec les notions telles que l'indifférence et la résignation. Nombre de romans francophones d'Afrique ont cette particularité de mettre en évidence les oppositions usuelles, donc on connaît, d'identité, d'altérité, de dominant et de dominé, et j'en passe. Je donnerai en premier lieu certaines précisions sur la notion de tolérance, donc toujours à la suite de certains théoriciens, avant d'interroger, si le temps le permet, quelques romans, notamment sur la question de tolérance. Mon postulat de base est que la notion de tolérance est plus complexe que la manière dont nous avons souvent l'habitude de la convoquer. Partant de ce constat, ma communication, je l'avoue, aura une large visée théorique. Et avant de mettre en évidence l'idée de tolérance dans le roman francophone d'Afrique et établir le lien qu'elle entretient avec l'indifférence et la résignation, il conviendra de faire une esquisse des caractéristiques centrales de celle-ci, parce qu'elle participe quand même à l'éclairage de ce concept. Dans sa signification étroite donc, de l'acceptation du fait religieux depuis le XVIe siècle jusqu'à sa conception des temps modernes, le terme de tolérance peut être bien saisi d'après un théoricien de la question, Rainer Faust, comme pas une vertu, mais une posture qui comporte plusieurs volets, donc différents volets sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. Je vais m'appuyer donc sur un terme, parce que nous avons, il y a quand même dans la salle certaines personnes qui ont été germanisées dans leur vie passée. Je vais utiliser un terme allemand pour élucider cette notion de tolérance avant de venir à la définition, donc à la signification que je conçois de cette notion. Donc, le terme Duldung en allemand signifie en fait acceptation et dérivé du verbe dulden qui signifie tolérer. Ceux qui ont déjà été en Allemagne et ont déjà eu à avoir un titre de séjour savent que si vous avez une situation compliquée et que le service d'immigration doit prolonger votre titre de séjour, on vous donne un titre de séjour provisoire qui s'appelle dulden. Donc on vous accepte provisoirement à rester dans le pays en attendant votre sort au risque de basculer donc dans l'illégalité. Donc, au regard donc de ce cas donc qui est ici purement juridique donc en relation avec la loi des étrangers, octroyer un titre de séjour provisoire à quelqu'un, donc lui permet de se situer quelque part où il ne connaît pas l'issue et il ne sait pas quand il prendra par exemple le prochain avion pour partir. Donc, de ce point de vue, la tolérance, à mon avis, est une autorisation provisoire accordée à des sujets singuliers et collectifs. Et sur le plan religieux et sociétal, c'est l'acceptation provisoire des différences insurmontables relatives à des convictions fondamentales. Et cette définition de la tolérance contraste bien avec donc, la notion d'intolérance. Et d'après Gerhard Klumpe, c'est un théoricien allemand de la question, la tolérance se situe au milieu de deux postures, notamment entre le fanatisme et l'indifférence. Le fanatisme étant une posture selon laquelle un individu prétend détenir une vérité absolue, vérité qui se place à l'abri de tout relativisme. Tout agissement du fanatique est absolu et contraignant, et toute position qui s'éloigne de celle-ci ne bénéficiera d'aucune forme de tolérance. Donc, et toute opinion aussi divergente donc, doit composer avec l'éventualité d'être éliminée. Et l'histoire de l'humanité est pleine quand même d'exemples donc, sur ce type de fanatisme. Et je pense l'auteur que vous aviez traité aujourd'hui donc, dans votre communication en est une illustration parfaite. Donc, il suffit de prendre une position tranchée pour avoir à craindre pour sa vie. Donc, le contraste entre la tolérance et le fanatisme est quand même assez clair. La distinction entre la tolérance et l'indifférence devient de plus en plus complexe, justement parce qu'il est facile de faire donc, l'amalgame entre ces deux postures. Une personne qui fait tout pour ne pas se laisser irriter, par exemple, pour ne pas se laisser provoquer, et, ou qui ne ressent aucun inconfort face à des agissements énormes qui lui sont étrangers et inhabituels, ne peut se qualifier de personne tolérante. Il s'agit plutôt d'une attitude d'indifférence. Pour le philosophe Friedrich Nietzsche, la tolérance, c'est l'incapacité de dire oui ou non. Nietzsche a aussi développé le concept de tolérance envers soi. Donc, la tolérance envers soi, c'est l'acceptation d'une pluralité de convictions, donc des convictions qui se côtoient, qui se protègent dans le but d'éviter toute compromission. Donc, compromission comme le fait d'éviter d'entacher, par exemple, sa réputation dans une affaire douteuse ou dans un temple familier, de se mouiller. Nietzsche va même encore plus loin et affirme qu'il suffit donc d'avoir des positions tranchées sur un certain nombre de questions ou être conséquent dans ces positions pour se mettre en situation de compromission. Avec ce concept de tolérance envers soi, Nietzsche fait la critique de cette posture, donc de la posture intellectuelle qu'on pourrait qualifier d'attitude politiquement correcte, comme vous l'avez évoqué aujourd'hui. Donc, autrement dit, accepter des opinions divergentes et contradictoires parce qu'elles représentent des interprétations possibles sur une question donnée, c'est la tolérance envers soi. Dans la même veine que Nietzsche, Gerhard Klumpe postule qu'il est devenu facile de nos jours de prétendre être tolérant dès lors qu'on accepte l'étranger comme il est, dans ses croyances, dans ses convictions, dans son mode de vie, dans sa culture, bref, dans sa vision du monde. Il qualifie cette attitude d'indifférence. Ainsi, le sujet indifférent a perdu toute capacité d'affirmation de ses convictions et de ses normes. L'indifférence est donc une compréhension erronée de la tolérance, donc une posture qui, au fond, est une forme de confort, donc le terme d'inconfort a été évoqué aujourd'hui, donc une forme de confort dans lequel la prétendue personne tolérante se place. Défendre le multiculturalisme, par exemple, c'est faire preuve d'indifférence envers l'étranger, non de tolérance. L'indifférent ne défend plus ses convictions, il est tiède, alors que le fanatique est pathétique. Ceci étant dit, être tolérant, c'est selon moi avoir cette capacité à accepter d'entretenir une tension, donc tension entre la perception normative de soi et celle d'autrui. Et ceci de manière provisoire, comme je l'ai dit tantôt, donc entretenir une tension provisoire et surtout avec patience. L'évitement de la confrontation n'est donc pas de la tolérance. On dirait avec Huntington, donc auteur du choc des civilisations, que c'est quand il y a vraiment choc des civilisations qu'il y a nécessité de recourir à la tolérance. Ce choc se comprend comme conflit entre les cultures et conflit entre les religions. Et j'ai mentionné à deux reprises cette dimension provisoire que revêt la notion de tolérance. Et elle est justement provisoire parce qu'elle peut connaître une rupture majeure, au moins changement des rapports de force, donc notamment en basculant dans l'intolérance. Autrement dit, dès lors que des seuils seront atteints, et ces seuils restent bien évidemment à définir parce qu'ils peuvent changer d'une personne à une autre. Et en présence, par exemple, de deux ou de plusieurs groupes ayant des rapports de force asymétriques, par exemple, des rapports de dominant et de dominé, ou rapports entre une autorité et une minorité, on s'attend souvent d'un geste de tolérance de la part du groupe dominant ou de l'autorité, donc envers la minorité. Parce que l'autorité peut faire aussi le choix d'être intolérant. Ce type de rapport est une conception permissive de la tolérance, donc conception selon laquelle la minorité ou les groupes dominés reçoivent la permission de l'autorité, donc qui leur permet de garder leur idéal, par exemple, leur vision du monde, à la seule condition de ne pas remettre en question la suprématie ou l'hégémonie du groupe dominant ou de l'autorité. Les groupes dominés peuvent également faire preuve de tolérance, soit comme stratégie de survie, en espérant inverser la tendance, c'est-à-dire arriver dans la position de dominant, soit parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, c'est un aspect qui a été discuté aussi hier, suite à la communication de Lusias Senoujanga. Et donc, au regard de cette réflexion donc menée jusqu'ici, on peut dire que l'idée de tolérance suppose avant tout la présence de deux ou plusieurs sujets ou objets en opposition. La tolérance passe donc dans un premier temps par le refus des convictions et pratiques d'autrui, donc c'est le premier volet, le volet de refus. Elle devient dans un deuxième temps acceptation de la différence ou indulgence, donc le volet d'acceptation, et peut arriver à un seuil ou à des seuils. Selon le philosophe allemand Jürgen Habermas, qui reprend cette idée de Faust, de Rainer Faust, la multiplicité des conceptions du monde et leur agissement sont les fondements même des démocraties constitutionnelles qui favorisent la création de lois juridiques, donc réglementant les sociétés de plus en plus colorées. Donc, c'est-à-dire que les lois s'adaptent à l'évolution de la société. Les exemples ces dernières années sont quand même assez frappants. Combien de pays ont modifié des lois, promulgué des lois antiterroristes, par exemple, donc dans le sillage des événements qui surviennent. Il devient ainsi important de rappeler au passage que le terme tolérance en français et dans les langues germaniques, d'une part, arbore une signification juridique, donc signification juridique née pendant les 16e et les 17e siècles en Europe, avec des lois obligeant les citoyens à se convertir donc à une religion dominante, donc chrétienne catholique, mais au même moment ordonne le respect des minorités, donc minorités religieuses telles les huguenots, les luthériens, avec les édits, par exemple, le plus connu, c'est l'édit de Nantes. Donc, d'autre part, le terme de tolérance requiert une signification relative à la disposition donc, de chaque sujet à accepter la différence. Par contre, en anglais, c'est le terme toleration, donc qui désigne cet aspect juridique et tolérance qui est la vertu des sujets singuliers ou collectifs. Donc, partie de la sphère religieuse, la composante du refus, qui nourrit la question de tolérance telle que théorisée par Force et Habermas, met l'accent sur l'aspect sociétal. Il s'agit donc d'un espace dans lequel les sujets d'une même société ayant des croyances et convictions différentes s'affrontent. Autrement dit, l'espace de théorisation de la tolérance, donc chez ces deux théoriciens, se limite à la composition de sociétés occidentales. Dans le roman francophone d'Afrique, je prends la thématique de la rencontre comme point de départ. La question de tolérance va donc largement au-delà de la simple disposition des sujets singuliers et collectifs à refuser d'autres croyances et convictions religieuses. Il devient de ce point de vue impératif de noter que les rapports de dominant, de dominé, qu'entretiennent les personnages de plusieurs fictions francophones constituent des antagonismes, donc antagonismes sur des projets politiques. Et symbolisés par les guerres anticoloniales, donc comme forme de résistance, même si elles n'ont pas de valeur juridique aux yeux des colonisateurs, représentent le refus d'un système. Il s'agit de projets coloniaux qui ont donné naissance à des systèmes ayant pour vision d'apprivoiser, d'occidentaliser ou de phagocyter, le reste du monde. Dans cette perspective, la fiction de Soba, donc dans Monnaie, Outrage et Défi d'Amadou Kourouma, est une illustration éloquente de ce refus du système, à mon avis. La résistance de Soba commence d'ailleurs plusieurs siècles avant même l'arrivée, avant même le début de l'entreprise coloniale. Le temps ne me le permet pas, sinon j'allais vous lire quelques citations. Et dans ce roman, comme tant d'autres qui traitent de l'esthétique de la résistance, on peut observer donc cet aspect permissif de la tolérance, donc qui s'installe dans les territoires conquis et qui réglemente à sa manière les rapports entre l'administration coloniale et les colonisés. Il est ainsi permis donc aux perdants de vivre à côté des envahisseurs à la condition que la sécurité et les intérêts des maîtres ne soient pas menacés. La pratique de la tolérance devient donc une méthode disciplinaire, donc répressive, ayant pour but la continuation de l'exercice du pouvoir ou la consolidation de sa suprématie. Dans ce cas de figure, c'est la minorité blanche, donc colonisateur, qui est l'autorité, donc autorité qui contrôle la majorité. Dans le roman « En attendant le veau des bêtes sauvages » de Kourouma, on assiste à une inversion des rôles. Ici, l'autorité n'est plus le colon, c'est cette fois-ci le colonisé. Les populations des différentes républiques imaginaires de ce roman représentent la majorité prise en otage par une minorité. Les régimes dictatoriaux post-indépendance dont il est question dans cette fiction font usage de l'intolérance donc, comme moyen répressif pour consolider le pouvoir. Et à défaut de conflits fratricides, en font usage pour lutter contre la majorité. Ces situations, en attendant le vote des bêtes sauvages, constituent le fondement même des formes de démocratie donc affaiblies, dans lesquelles la majorité démocratique tolère la minorité, donc ici la minorité, l'autorité. Dans Monnaie, Outrage et Défi, le second volet de la tolérance, donc théorisé par Anna Force, qui est celui de l'acceptation, commence à partir du moment où les nouveaux pouvoirs, qu'ils soient minoritaires ou majoritaires, fondent leur règne sur des mécanismes. Donc, en résumé, les étapes nécessaires à la pratique de la tolérance donc, sont en premier le refus. Ce refus, donc, caractérisé par l'entretien d'une tension et qui revêt cette dimension toujours provisoire. Et ensuite, le deuxième volet, l'acceptation. Bref, la confrontation devient la pierre angulaire autour de laquelle se construit la notion de tolérance. Donc, plus radicalement, On pourrait même dire que pour qu'il y ait tolérance, il doit y avoir une forme de violence. Donc, en attendant le vote des bêtes sauvages, par exemple, la posture de la majorité devient résignation, donc le peuple face à ses dirigeants, en ce qu'elle porte cette valeur selon laquelle on accepte tout sans protester parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, une minorité qui, ici, dicte les lois à une majorité. Merci.